France Musique.
La querelle des bouffons. En ce 18e siècle d'idées lumières, Paris se veut le soleil qui gouverne la galaxie européenne. La ville fascine ses visiteurs malgré ses inégalités sociales, ses rues sales et boueuses et la liste quotidienne de ses crimes. Casanova accourt d'Italie. Citoyen de Genève, Jean-Jacques Rousseau s'y installe à demeure. Melchior Grimm vient depuis sa Bavière. Quant à Rameau et Diderot, tous deux quittent leur Bourgogne pour rejoindre la capitale. Voltaire y est né, mais s'en tient éloigné sa vie durant. Il n'y reviendra que pour y mourir. La vie intellectuelle parisienne se déploie dans les prestigieux salons. L'initiatrice, Madame de Lambert, fut la première de ces femmes remarquables à donner le la du bon goût et de l'esprit. Mesdames d'Épinay, de Tencin, du Defan ou de l'Espinasse ont leur mardi où l'art de la conversation s'épanouit jusqu'à la Révolution. En établissant des passerelles entre le monde savant et le beau monde, entre les sciences et la littérature, ces salons sont des rendez-vous incontournables pour les intellectuels. Peu à peu, on y parle plus librement et divers courants de pensée s'épanouissent. C'est dans ce même Paris que vécut Mozart en 1778, son plus mortifiant séjour hors d'Autriche. Il exprime dans ses lettres des propos infamants au sujet du goût musical des Parisiens, tout en aspirant à la reconnaissance d'au moins l'une des trois sociétés de spectacle. Le concert spirituel, l'Académie royale de musique nommée aussi Opéra de Paris et le concert des amateurs. D'autres lieux participent aussi à l'animation musicale et culturelle. Le théâtre de la Foire et le théâtre des Italiens où l'influence napolitaine confond les genres et bouscule les styles. Le 28 juin 1751, le rideau se lève sur le premier acte de la plus grande aventure éditoriale de l'histoire humaine. La publication du premier volume de l'Encyclopédie raisonnée des sciences, des arts et des métiers. Pour mener à bien ce projet philosophique global, les philosophes et éditeurs Diderot et d'Alembert s'entourent d'une société de gens de lettres. Ils seront plus de 200 à contribuer à cette première œuvre collective de l'histoire des dictionnaires encyclopédiques. Voltaire, Buffon, Marmontel, entre autres, y participent. Quant à Rousseau, le philosophe-compositeur, il rédige environ 180 articles de musique. Son opéra en un acte, Le Devin du Village, est présenté au roi Louis XV et à Madame de Pompadour le 18 octobre 1752. Mais Rousseau refuse de saluer le roi à l'issue de la représentation. L'encyclopédie comportera 28 tomes, tous rédigés entre 1751 et 1772. Un an et cinq semaines plus tard, alors que cette prometteuse encyclopédie vient d'être rappelée à l'ordre et interdite de publication, arrive le 1er août 1752, pour une troisième tournée parisienne, la troupe italienne des bouffons. Elle est ainsi dénommée parce que son répertoire appartient au genre bouffa, terme d'origine pour désigner l'opéra italien de sujet comique. Cette tournée déclenche une tempête du goût qui ébranle tout l'ordre politique du royaume de Louis XV. L'opéra français, incarné par la tragédie lyrique, était resté dominé depuis le XVIIe siècle par quelques figures peu nombreuses mais imposantes. Lully et Rameau, qui ne s'étaient guère renouvelés depuis la mort de Lully en 1687. Ce dernier, compositeur despote et dictatorial à la cour de Louis XIV, n'a pas laissé la parole à d'autres expressions dramatiques que la sienne, celle de la représentation de héros mythologiques dont la grandeur et la solennité sont à l'image du roi soleil. Le 1er août 1752, la Serva Padrona de Pergolèse est donnée par la troupe des bouffons italiens. Six mois auparavant, Rousseau a fortement vanté la pièce dans un pamphlet. Premier des 12 spectacles que les Italiens donneront à Paris, la Serva Padrona devient une œuvre presque mythique, sans pour autant être exemplaire. On rit à l'opéra, on rit à gorge déployée. Les encyclopédistes Diderot, Grimm, Rousseau se passionnent pour l'italianisme de l'œuvre. Un vent nouveau semble enfin correspondre à leurs attentes. La vérité et la nature humaine sont sur scène. Épris d'égalité sociale, les nouveaux philosophes se dressent contre les musiciens et les partisans d'un ordre monarchique. Une soixantaine de pamphlets, anti ou pro-italien, sont alors écrits par divers beaux esprits du temps. Rameau, dont les joutes qu'il oppose à Rousseau se montrent certes supérieures dans sa connaissance de la musique, mais dans la bataille de plumes, il ne fait pas le poids face au talent et à la nouveauté d'esprit des philosophes. Avec sa lettre sur la musique française, en novembre 1753, Jean-Jacques Rousseau écrit un des plus beaux pamphlets de la littérature française, violent réquisitoire anti-français qui expose malgré tout l'insuffisance de ses connaissances musicales. Rameau ne manque pas de démontrer la faiblesse des arguments de Rousseau dans sa réponse intitulée « Erreur sur la musique » dans l'encyclopédie. Entre 1752 et 1754, Paris vit une révolution fondamentale qui, au-delà de l'anecdote, interroge la signification des genres. Les partisans du style italien sont regroupés dans ce qu'on appelle le coin de la reine. Marie Leszinska, cette reine bafouée par son mari, a su s'entourer et se faire aimer d'un groupe de courtisans dévoués, composés d'hommes de lettres. Ces derniers s'opposent férocement aux conservateurs du camp adverse, le coin du roi, et de sa favorite, Madame de Pompadour, qui, eux, défendent l'esthétique française. D'un côté, les supporters des Italiens, les bouffonistes. De l'autre, les partisans de la musique française. Un conflit des anciens et des modernes dont le sujet de discorde vient à séparer deux styles musicaux, mais aussi deux esthétiques au sens large, deux conceptions de l'imitation de la nature, chère à tous au XVIIIe siècle. Pour Rameau, la nature est en quelque sorte la nature du son, au sens physique. Pour lui, la nature ne se trouve que dans le phénomène musical. Il considère son art comme une science et il est l'un des derniers compositeurs à avoir recours à la théorie pour justifier son art, comme si son œuvre ne se suffisait pas à elle-même. Alors que pour Rousseau, cette nature-là, scientifique et sèche, est inintéressante. La nature pour lui, c'est la nature de l'homme, sa bonté originelle, et la pureté des sentiments est mieux exprimée par la musique italienne. L'action des opéras bouffes est plus proche d'une âme pure, intime, sincère, elle va droit au cœur. Rameau n'est plus de son temps. Il appartient au grand siècle, au XVIIe siècle. Il perpétue avec habileté et grand art un style musical, mais aussi un comportement politique que Lully avait établi avant lui. Deux visions du monde s'opposent alors. D'un côté, les défenseurs d'une nouvelle société éprise d'égalité sociale. De l'autre, les partisans d'un ordre monarchique. L'opéra à la française est depuis son origine assimilé à la gloire du roi. Quand Rameau se défend, il sert des vues purement théoriques et musicales. Quand Rousseau attaque, il vise un ordre, une société, un régime politique. À travers la musique, c'est la cour décadente qui est visée. Quand le philosophe conspue les œuvres de Rameau, il veut faire la caricature de l'opéra du roi, spectacle arrogant et honni. Il met fin à une tradition de cour française, celle de la tragédie en musique. La querelle des bouffons permet aux philosophes et aux esthètes de défier doublement l'autorité, en poursuivant l'exercice du droit à l'expression et en l'appliquant à un domaine où toute sanction ouverte de l'État se serait couverte de ridicule. D'un plaisir de plume ou de l'art du trait et de la polémique, par l'ironie et la critique, les philosophes demeurent les acteurs de la pensée nouvelle.
À réécouter sur francemusique.fr.